décryptualité. Le podcast qui décrypte l'actualité des libertés numériques. Semaine 25, salut Magali.
Salut Nico.
Salut.
Alors, ce n'est pas notre Nico habituel.
Ah bah non. Bah,
on en a pris
un plus jeune.
Voilà, un plus sympa.
Oh, c'est pas gentil.
J'approuve.
Aucune objectivité.
Il nous manque en vrai, donc on lui en veut.
Voilà, et ça. Du coup, on a invité Nicolas Dandrimont, qu'on avait déjà reçu pour que tu nous parles de Free Software Heritage.
Oui, ça fait un bout de temps.
Mais tu es toujours président de Debian France.
Aussi.
Et tu es un libriste convaincu.
Oui, il faut croire.
Il est tellement convaincu qu'il va nous aider pour la revue de presse. France TV Info, Amazon Echo, Google Home, HomePod d'Apple, vous faites quoi de mes données personnelles? Par Robin Prudent et Vincent Matalon. Et donc là, on retourne sur les objets connectés. Ça parle de OK Google, de Siri, de Alexa, tous ces objets que j'aime pas du tout, qui nous surveillent constamment. Mais attention, Google ne revend pas nos données, il ne fait que de nous envoyer de la pub ciblée. Et bien sûr, il conserve ça ad vitam aeternam. Je suis pas sûre que le RGPD soit bien respecté chez Google.
Je suis un peu curieux de savoir ce que vont donner les actions de groupe de la Quadrature sur ce sujet.
Lemonde.fr, comment des parlementaires veulent inscrire la neutralité du net dans la Constitution, par Manon Rescan et Martha Utterzinger.
Plutôt une bonne nouvelle, on a des députés qui veulent profiter d'une petite réforme de la Constitution pour ajouter des dispositions directement dans la Constitution sur le numérique et qui iraient la mise en place de la neutralité d'Internet. On sait que les États-Unis viennent en gros de la faire sauter. On a déjà quelques textes qui, en Europe, sont censés la garantir, mais c'est plutôt fragile. Ça parle également de droit d'accès à Internet, enfin d'en faire un droit, hein. Et également aussi solidifier tout ce qui est la protection des données personnelles dans la boîte ligne du RGPD, donc le mettre directement dans la Constitution.
Je ne suis pas entièrement convaincu par tout ça, notamment la partie sur le droit d'accès à Internet. En fait, c'est des choses qui sont a priori déjà considérées par le Conseil constitutionnel comme intégrées à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Donc je ne sais pas si cet ajout va être... pertinent quoi, dans la Constitution.
La neutralité du net, ça peut pas faire de mal quand même.
Ouais, à voir dans les détails. Je pense que le diable est dans les détails là-dessus.
ZDNet France, les emplois Linux et open source sont plus demandés que jamais, par Steven J. Vaughan Nichols. Et donc oui, en fait, il y a pas de chômage, enfin, quasiment pas de chômage. Il y a même une sorte de grosse pénurie puisqu'on a pas mal d'employeurs qui ne trouvent pas des informaticiens compétents sur Linux ou sur d'autres logiciels open source.
On voit que toutes les technos libres open source sont vraiment à la base de ce qui fait l'Internet aujourd'hui, quoi. Donc, c'est clair que si on a des compétences dans le libre, aujourd'hui, on a du travail. Quoi. Y a pas de...
Donc en cette période de bac, réfléchissez-y pour la suite.
Ce qui est amusant, c'est que le salaire important n'est pas forcément la mesure incitative choisie par les employeurs. Ils rajoutent des vacances, ils font des RTT supplémentaires. Enfin, les informaticiens open source ne sont pas forcément...
Il y a quand même moyen de négocier des bons salaires, hein, non, parce que sinon, ça va faire fuir les gens. Donc rassurez-vous, il y a des gros sous à faire.
Numérama, filtrage du net, taxe sur les liens, une bataille est perdue, mais pas la guerre, par Julien Lausson.
C'est la mauvaise nouvelle qui est la suite de ce dont on parlait la semaine dernière quand on vous a dit qu'il fallait se bouger les fesses pour essayer de bloquer l'adoption d'un texte sur la réforme du droit d'auteur, qui a deux dispositions qui nous embêtent très largement. L'une est de dire que les liens Internet pourront devenir payants, et qu'il y a une sorte de droit d'auteur dérivé là-dessus. Deuxième chose, puisse faire du filtrage automatique et a priori sur les contenus en considérant que, par défaut, ils sont illégaux. Et donc, des choses qui ouvrent des faux positifs, de l'arbitraire et des choses comme
ça. Tout ça se passe au niveau du Parlement européen. Enfin, c'est des choses qui aussi tuent dans l'œuf les petits acteurs de l'Internet. En tout cas, sur la partie filtrage des contenus au préalable, c'est des technologies qui sont assez lourdes à mettre en place. Donc, c'est très complexe pour des petits opérateurs de se lancer dans le jeu, quoi.
Donc, ça a été voté malheureusement, mais ça n'est que la première étape. Il y en a cet été et plusieurs étapes qui viennent, et donc on a encore des chances de bloquer ce truc-là.
Ouais.
Développé.com, l'exode massif de GitHub vers GitLab, qu'en est-il réellement 14 jours après, par Michael Guillou.
Ouais, donc GitHub, qui est une des plus grosses plateformes de développement collaboratif sur des logiciels open source, qui a été racheté par Microsoft. D'ailleurs, ça a un peu boosté l'utilisation de GitLab, qui est un des gros concurrents aujourd'hui de GitHub. Donc là, ouais, cet article de Développé.com, il essaie de regarder un peu concrètement avec avec des chiffres. Qu'est-ce que ça donne, quoi, ouais, cette migration bilan, ouais. Or, leur compte, il est assez peu précis, mais quand même, ça donne une idée. La migration, c'est moins d'1% des dépôts qui existent sur GitHub aujourd'hui. Je travaille pas mal sur la quantité de dépôts qu'il y a sur GitHub. GitHub, c'est 90 millions de dépôts publics aujourd'hui. GitLab, c'est de l'ordre de 2-3 millions. Un truc
d'accord, mais combien de dépôts publics actifs? Parce que s'il y a des projets qui sont morts et qui n'ont pas bougé depuis 2 ans, tu vois, enfin...
Ouais, alors il y a plus de projets actifs qu'on peut l'imaginer. J'ai pas de chiffres précis en tête, mais oui, c'est plusieurs millions de projets actifs, vraiment. Quand Microsoft a finalisé le rachat de GitHub, il y a des chiffres qui sont sortis sur notamment le nombre de développeurs qui utilisent GitHub, et c'est plusieurs dizaines de millions, quoi. C'est phénoménal comme outil, et c'est assez effrayant de voir que le développement aujourd'hui du logiciel libre est centralisé sur une plateforme privatrice. GitLab, c'est Core qui est logiciel libre, mais si on va sur gitlab.com, c'est pareil, hein. Il y a tout un tas de fonctionnalités qui sont propriétaires, qu'on ne peut pas héberger soi-même. Dans l'article, on nous explique quand même que 95% des utilisations de GitLab sont sur des utilisations qui sont auto-hébergées, où c'est des gens qui hébergent des instances GitLab chez eux, plutôt que d'aller sur gitlab.com. Donc c'est plutôt encourageant.
Le Monde FR, messagerie, moteur de recherche, comment se passe cette Google, Facebook ou Twitter, par Yves Eudes.
C'est un article sur nos amis de Framasoft.
Encore,
bah, et qui font des choses très bien. On va en reparler encore, je pense, dans les mois qui viennent. Et donc, voilà, il parle de toutes les alternatives. Allez jeter un œil si vous ne connaissez toujours pas.
The Conversation, quand les chercheurs se libèrent des revues scientifiques au coût exorbitant, par Corinne Léval.
Et on parle vraiment de questions de recherche ouverte. Donc, on a de plus en plus d'éditeurs scientifiques qui font payer, notamment des institutions publiques, des coût exorbitant pour l'accès aux articles de recherche. Et donc là, on nous parle un peu de chercheurs qui utilisent plutôt des données ouvertes sur la bibliographie pour après monter des plateformes de recherche à l'intérieur des articles scientifiques.
Et donc passer outre ce système...
Absolument. Ouais. Voilà,
très bien. Alors, ça va être, on l'a pas dit en introduction, mais notre dernier podcast de la saison, puisque on va prendre des vacances.
Oh.
Bah, vous pouvez le faire tous les deux. Hein. Moi, y a pas de problème. Moi, je prends. Et on s'est dit que comme ça va être l'été, on va faire un sujet vacances.
Ah ouais.
Ah, c'est bien les vacances.
Voilà. Donc, ça va être les vacances. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire en lien avec le libre pendant ces vacances?
Bon, on peut peut-être aller à des événements, genre Strasbourg, les rencontres mondiales du logiciel libre, qui ont lieu du 7 au 12 juillet, où il va y avoir plein de conférences, des ateliers, des journées spéciales, et bien sûr un village du libre dans lequel vous pourrez nous rencontrer.
Alors, un peu plus près, temporellement, il y a le festival Passage en scène, qui a lieu à la médiathèque de Choisy-le-Roi, Passage en scène, qui a lieu du coup ce week-end, de jeudi à dimanche. Voilà, donc avec tout un tas de conférences intéressantes autour des questions de libre.
Il y a des réunions OpenStreetMap, alors là il y en a un peu partout en France.
Où est-ce qu'on peut retrouver tous ces événements?
Ah bah bien sûr, ces événements, on les retrouve sur l'agenda du libre.
Magali, dans les événements, tu parlais de rencontres OpenStreetMap. Donc quand on part en vacances, souvent on a besoin de cartographie, on a besoin de s'orienter. Et,
ça peut être pratique.
Il y a une appli qu'on peut avoir sur son téléphone portable, qu'on peut avoir par différents moyens, qui s'appelle OSM And, And comme et en anglais. OSM, c'est OpenStreetMap. En gros, le Wikipédia de la cartographie.
Oui.
Pensez bien à télécharger la tuile qui correspond à l'endroit de vos vacances avant de partir chez vous quand vous avez votre Wi-Fi, sinon c'est moins
Alors, on
utile.
Peut le faire également en format tuile. Alors, l'application, elle est un petit peu plus austère, il faut le dire, hein, qu'un Google Maps, etc. Mm-hmm. Mais le gros avantage, c'est qu'on peut effectivement très simplement télécharger des cartos entières et on n'a plus besoin d'avoir un accès Internet pour pouvoir faire son orientation. Et voilà, Nicolas qui part à Taïwan, par exemple, on se doute que ça va être compliqué pour toi d'avoir une carte et de l'Internet mobile à Taïwan.
Oui, effectivement.
Et donc, du coup, tu pourras, pendant que tu sécheras les conférences ou autres, ou que tu seras perdu avec ton typhon, retrouver ton chemin avec la carte que tu as.
Alors, je triche un peu, hein, j'en profite pour prendre de vraies vacances après aussi, sur place.
Voilà. OSN And, ce qui est intéressant, c'est que si on va le chercher dans le Play Store, c'est payant. Si on installe F-Droid, qui est un store de logiciels comme le Play Store, mais libre, il est gratuit. Alors du coup, si on a envie de faire un peu de carto et de participer, avec tous les événements OpenStreetMap, on peut rencontrer des gens et un peu s'initier à ce truc-là. Parce qu'on peut installer d'autres applis, il y en a plein, qui permettent notamment de faire des relevés et de contribuer à cette super carte. Et ça peut être une façon de profiter de ses vacances également pour participer à la cartographie, voir si la carto est complète, et puis aller proposer des améliorations, des choses comme ça.
Et puis si on ne veut pas sortir de chez soi?
Alors oui, et si on reste à la maison, on peut bricoler ou réorganiser sa maison, par exemple.
Ah, je te vois venir.
Il y a un logiciel logiciel dont on n'a jamais parlé ici.
Sweet Home 3D.
Tout à fait.
C'est génial quand on refait ses papiers peints, ça te calcule ta surface en fait.
Ah.
C'est un logiciel qui est grand public, donc il n'y en a pas beaucoup. Donc ça mérite d'être mentionné, qui permet de dessiner le plan de sa maison de façon très simple.
Meuble par meuble.
Et après on peut mettre des meubles, il y a des bibliothèques de meubles et on peut les placer. Ça fait des rendus 3D, donc si on avait une petite idée de ce que ça donne. Et donc si on veut réorganiser son appartement, on n'a pas besoin de bouger tous les meubles dans tous les sens. On peut le faire, tracer le plan de sa maison.
Ou si on déménage.
Voilà,
ça arrive
aussi.
Pas mal de
oui,
déménager.
Ça arrive souvent en été, on fait ça, effectivement.
Tu peux même mettre un petit personnage pour voir si ton personnage y passe entre tes meubles. C'est très rigolo.
Alors, on peut également mettre à profit ses vacances pour militer contre la réforme du droit d'auteur, puisqu'il y a une échéance en juillet. Et donc, on peut aller voir ce qui se passe du côté de la Quadrature, de l'April, etc., pour voir quelles sont les prochaines étapes et qu'est-ce qu'on peut faire pour pousser dans le bon sens.
En plus, c'est pas mal parce que les députés européens, ils sentent un peu le vent venir. Il y a une échéance électorale bientôt, donc oui. ça peut être pas mal pour leur mettre la pression.
Remettre un vieux PC en marche.
Du coup, on fait quoi? On met des pieds.
Oui, ou alors, ou alors on lui met un système d'exploitation libre.
Avec une version légère.
Par exemple, moi, tu sais, les vieux PC de maintenant, ils font tourner les distribs grand public comme Ubuntu ou Mint sans problème. Mm-hmm. Donc c'est l'occasion, si c'est un vieux PC qu'on n'utilise plus, soit on sait faire et on regarde ce que ça donne, soit on ne sait pas faire et c'est peut-être l'occasion de se former là-dessus, d'apprendre de nouvelles choses et puis de regarder comment ça marche.
Surtout qu'il y a pas mal de gules qui continuent à faire leur rendez-vous mensuel pendant l'été. Donc.
On peut aussi acheter du matos neuf. Je veux dire, il y a du matériel libre qui existe maintenant, que ce soit Prism, Librem et Fairphone. Fairphone, on n'en parle pas souvent, mais ce serait pas mal.
Oui.
Moi, Fairphone, je connais pas. Par contre, je connais pas mal de gens qui travaillent chez Purism. En fait, leur système, il est basé sur Debian. Ils emploient pas mal de développeurs Debian.
C'est un téléphone, hein. C'est ça une alternative de téléphone.
Alors, ils ont une gamme d'ordinateurs portables, ils ont aussi une gamme de téléphones qui est en développement, là, qui devrait sortir au début de l'année 2019, du coup.
Alors, on peut aussi regarder le ciel pendant la nuit.
Ah oui, avec SkyMap. Surtout que c'est les nuits des étoiles, puisque c'est le 3, 4, 5 août.
Oui.
Donc, bah, avec ce logiciel-là que vous installez sur votre ordinateur ou sur votre téléphone, vous pouvez comprendre ce qui se passe dans le ciel.
C'est vraiment sympa, SkyMap sur téléphone. En fait, ça utilise la position GPS et la boussole. Et vous pouvez le pointer au ciel. Ça vous montre les étoiles que vous êtes en train de voir.
Quand on est en vacances, on prend des photos, souvent.
Ce qui est chiant, c'est quand tu reviens, il faut les trier, ainsi de suite. Il faut les recadrer. C'est,
Effacer les yeux rouges.
Ouais. Alors, faut porter des lunettes de soleil tout le temps, sinon. Mais voilà, il y a plein de logiciels pour gérer ces photos. Il y a GIMP, le fameux GIMP, pour les retoucher, les recadrer, etc., qui nécessite un petit peu d'apprentissage, mais c'est l'occasion. Si on fait de la photo sérieusement, il y a Darktable et Rotherapy qui permettent de retravailler les fichiers RAW. Ceux qui connaissent comprendront. Mais on a également des services de partage de photos, comme Framapic, par exemple.
Oui, enfin, ça permet de partager sans devoir faire tourner des CD ou ce genre de choses.
Et sans passer par des services propriétaires qui
évidemment.
Récupèrent tout ce qu'ils peuvent comme info.
Mais moi, pendant les vacances, je bookine. Alors, du coup, je voudrais conseiller à tous ceux qui lisent des livres numériques d'installer Calibre. Parce que Calibre, c'est un logiciel libre et ça enlève tous les DRM, tous les tatouages et ça nettoie vraiment ces livres numériques qu'on peut du coup après partager autant qu'on veut. Et...
On peut prêter ces livres numériques.
Ouais, c'est trop bien.
Pas mal.
Et si on veut lire, il y a des livres sous licence libre. Donc il y a pas mal de manuels d'informatique si on veut apprendre des nouveaux trucs.
Il y a tous les floss manuels sur justement Inkscape, GIMP, Blender et compagnie. Il y a tous les Framabook, hein, mais vous allez encore dire que je vous saoule à vous parler de Framabook.
Et il y a quelques romans hein, dans le lot. Donc. C'est pas que des trucs sérieux.
Et puis c'est l'occasion de parler d'un tout petit éditeur qui s'appelle CEF Édition, hein, qui est une maison d'édition qui est à Caen. Alors ils font pas des livres sur les logiciels libres, hein, c'est plutôt les communs, mais ils en font vraiment pas mal et je conseille vraiment d'aller découvrir cette maison d'édition.
Si on a un peu la tête dans les livres ou dans l'écriture, on peut aussi commencer à contribuer à Wikipédia par exemple. Ça peut être une occasion.
Oui, ça et avec ces photos,
avec
on l'a pas mentionné.
Et
que ce soit
oui, les
dans
photos,
les articles et également
les
photos
mettre,
sur Commons pour, quand on va voir des monuments, des choses comme ça. Et on peut enrichir le fond. Il y a pas mal de photos sur beaucoup de sujets, mais il n'y a pas toujours de bonnes photos. Donc les gens qui sont branchés photo, même si vous n'êtes pas un super photographe, si vous faites une photo assez banale mais en bonne qualité d'un monument, et ben ça peut valoir le coup et ça peut faire la différence.
À un moment où il fait beau, par exemple.
Par exemple, voilà. Et puis quand on est en vacances, il y a ces questions de pognon et quand on parle pas tout seul, souvent on a des problèmes où il faut faire ses comptes. Et il y a un logiciel adapté.
Ça s'appelle I Hate Money.
Je hais l'argent.
Je hais l'argent. J'adore ce logiciel parce qu'en fait on part à plusieurs, on saisit quels sont les participants, on saisit quelles sont les dépenses, qui a payé, puis après on sait exactement qui doit combien à qui.
C'est super pratique, c'est un petit site. site web, on peut soit l'utiliser tel qu'il est hébergé chez la personne qui l'a développé, soit l'héberger soi-même. Et après, on peut y accéder par n'importe quel navigateur, sur son téléphone, n'importe où, et faire ça vite fait. C'est pratique.
Voilà, et sur F-Droid, donc sur son téléphone, on peut également utiliser un logiciel qui s'appelle Car Report, qui est un logiciel de suivi de dépenses sur sa voiture. Comme ça, si elle crève au milieu de la route, quand on est sur le retour et
tu
tout ça.
Tu sais combien ça te coûte, c'est-à-dire cher.
Voilà. Donc, y a plein d'autres choses qui seraient possibles, mais voilà, c'est un peu ce qu'on a retenu.
Ouais, t'as oublié les sportifs, quoi. Il y a un petit logiciel qui s'appelle Pédomètre. Hein.
Oui, pour compter les pas.
Voilà.
D'accord. Donc, voilà. Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire. Et allez-y, découvrez, amusez-vous et passez de bonnes vacances.
Bonnes vacances.
Enjoy!